Zoé Svez, le journal de la culture, est consacré ce matin à l'exposition que la Fondation Louis Vuitton donne à la collection Tchoukine, un industriel russe collectionneur, mais aussi commanditaire de certaines des œuvres les plus importantes de l'histoire de l'art contemporain.
Oui, alors moderne plutôt, parce que tout ça, ça se passe quand même au début du XXe siècle. Son nom, Sergei Tchoukine, alors c'est compliqué, ça s'écrit Tchoukine, mais moi, j'ai vraiment compris qu'on dit Tchoukine. Son nom est quasiment inconnu. Il l'était aussi en Russie depuis près de 50 ans. Et en fait, cet homme, c'est un grand industriel russe qui a amassé entre 1898 et 1914 une collection de peintures absolument mythique, considérée comme l'une des plus importantes, si ce n'est la plus importante du monde en matière d'art moderne. Plus qu'un collectionneur, il fut surtout aussi un commanditaire crucial, notamment pour les jeunes Picasso et Matisse, dont on estime qu'ils n'auraient pas du tout été les mêmes peintres si Tchoukine n'avait pas existé. Cette collection, d'abord mise en valeur par le régime communiste à son arrivée au pouvoir, a finalement été dispersée par décret par Staline en 1948. Tchoukine, exilé à Paris, en perd une très grande partie, voire la quasi-totalité. La collection se retrouve éclatée à travers le monde, mais reste globalement en Russie, où elle est bannie puisqu'elle incarne l'art bourgeois. Sur les 278 œuvres mythiques de cette collection, la Fondation Louis Vuitton a réussi à en présenter aujourd'hui 127. Alors les mots ne manquaient pas hier, un miracle, un prodige, un rêve de conservateur, explique Anne Baldassari, l'ancienne directrice du musée Picasso. Elle est la commissaire de cette exposition.
Je crois que c'est le rêve de tout le monde, c'est le rêve des amateurs, des collectionneurs, des conservateurs. Depuis l'âge de 19 ans, je ne pense qu'à la collection de Tchoukine parce que maintenant c'est la première collection d'art moderne au monde, avec celle qui a été créée à Paris par les Stein. Elle dépasse celle des Stein en ampleur, en importance, et elle couvre tout l'arc de la création depuis l'impressionnisme avec Monet et les autres, Sisley, Guillaumin, et jusqu'à Matisse et Picasso. On a 38 peintures de Matisse et 50 de Picasso. On se rend compte que ça dépasse un ensemble même représentatif, en passant par les post-impressionnistes Cézanne et Gauguin. Donc c'est vraiment, il y a environ 120 œuvres, elles sont ici, qui sont essentielles à la compréhension de l'histoire de la peinture.
La question se pose, espèce de savoir pourquoi une telle exposition ne parvient à voir le jour qu'aujourd'hui en France et dans une institution privée, la Fondation Louis Vuitton.
Oui, parce que d'abord, il faut le dire, c'est important, les Russes n'ont jamais eu le droit de voir toutes ces œuvres réunies ensemble, ils n'ont jamais eu droit à une telle exposition. Le gros des œuvres, en fait, étant réparti entre les deux grands musées rivaux de la Russie, à savoir l'Ermitage et le musée Pushkin, ces œuvres étant montées donc au fur et à mesure du dégel et depuis 1989. Et surtout, la question se pose de savoir pourquoi les plus grands musées publics d'art moderne du monde, le MoMA, le Tate Modern, Georges Pompidou à Paris, n'ont pas réussi à organiser cette exposition extraordinaire, qui est un vrai coup de maître. On parle évidemment des difficultés de traiter avec les Russes, mais aussi du coût supposé exorbitant. Alors c'est impossible d'avoir des chiffres quand on est à la Fondation Louis Vuitton. Des assurances et des frais de restauration nécessaires à une telle exposition, puisque la collection est estimée, mais ça n'est qu'une estimation, à près de plus de 4 milliards d'euros, si jamais on devait la vendre aujourd'hui. Donc ces frais d'assurance se chiffreraient à des millions d'euros. J'ai posé toutes ces questions à Anne Baldassari et voici sa réponse.
Je suis absolument désolée de vous dire que ce n'est pas plus cher que d'organiser Picasso et les maîtres au Grand Palais, que nous avons fait régulièrement. Les valeurs d'assurance sont les mêmes. Donc il faut vouloir avoir une programmation offensive, il faut vouloir prendre des risques culturels. En fait, personne n'a jamais essayé de faire l'exposition parce que c'est une sorte de collection fantôme. On en connaît la légende, mais en fait on n'en connaissait pas la liste, on n'en connaissait pas les contours. C'est un cas d'école, c'est-à-dire qu'il faut une volonté très forte face à nos amis russes et surtout face au fait qu'on est deux musées qui ne sont pas toujours dans des relations faciles entre eux, donc il y a des compétitions. Et il fallait un opérateur absolument décidé. C'est ce caractère résolu de la Fondation Louis Vuitton qui lui a donné cette chance. Il faut aussi savoir que cette exposition a été proposée aux musées nationaux. Donc c'est à eux de vous répondre sur pourquoi n'ont-ils pas accepté de prendre ce risque.
Alors la réponse est peut-être dans le caractère éminemment politique de cette exposition qui a nécessité, tout le monde le dit très clairement là-bas, la nécessité des interventions au plus haut sommet de l'État en France et en Russie et qu'elle s'inscrit globalement dans la stratégie de soft power russe très très large qui a lieu aujourd'hui notamment en France, mais on en reparlera bientôt de cette stratégie puisqu'elle s'étend évidemment à cette fameuse cathédrale orthodoxe inaugurée mercredi. L'expo en tout cas, Tchoukine Icône de l'art moderne et visible à la Fondation Louis Vuitton jusqu'au 20 février.
Tout de suite des brèves, Zoé.
Et on ouvre avec le projet musical intitulé 30 jours, 30 chansons contre Trump, alors que la campagne américaine bat son plein lin. Des grands artistes comme R.E.M., Death Cab for Cutie, Jim James ou Franz Ferdinand s'unissent pour dénoncer, je cite, la campagne polémique et haineuse de Donald Trump. Chaque jour jusqu'au 8 novembre, ils diffuseront un inédit sur le site qui porte le nom du projet.
Le prix Interallié dévoile sa deuxième liste avec quelques surprises.
Le jury a éliminé 7 auteurs, dont Leïla Slimani, Karine Thuil et Jean-Paul Dubois, tous en liste pour le Goncourt. Il a sélectionné Benoît Duterte, qui était absent jusque-là, avec Livre pour adultes. Parmi les 6 auteurs toujours en liste, on trouve évidemment le grand favori de cette saison littéraire, Gaël Faye, et son roman Petit Pays.
Et enfin, le ton monte entre la Suisse et le ministre Michel Sapin à propos des ports francs de Genève.
Début octobre, le ministre français avait accusé les ports francs qui permettent, je le rappelle, de conserver toutes sortes d'objets sans payer de droits de douane ni de TVA et qui abritent des milliers d'œuvres d'art, de financer le terrorisme via le trafic d'œuvres d'art. Le gouvernement suisse outré a indiqué aujourd'hui qu'il avait envoyé un courrier à l'intention de M. Sapin pour l'inviter à venir se rendre compte lui-même sur place.